Donc on a une question, oui.
Claire, j'aurais voulu te demander, donc moi je m'occupe de mucoviscidose à Nantes, des enfants atteints de mucoviscidose, et j'aurais voulu savoir si ça fonctionne bien, si tout va bien, si les financements continuent, est-ce que tu penses ouvrir à d'autres pathologies ?
À d'autres pathologies, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Le projet, c'est d'ouvrir à d'autres centres éventuellement ce mode de fonctionnement, avec le souhait de travailler quand même avec le même objectif. Voilà. Donc, être dans la même mouvance, la même philosophie, pour qu'il y ait de la cohérence un petit peu dans ce que l'on fait. Maintenant, je crois qu'il faut être ouvert à tout. En tout cas, je n'ai pas de réponse négative, de principe à donner par rapport à d'autres pathologies.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça au départ ou...
D'autres pathologies, non.
Non.
Parce que c'est pour reprendre un petit peu ce que disait Jean-François Divernois, c'est sur la difficulté, je trouve... Bon, moi j'ai travaillé et sur la mucoviscidose et sur le diabète, et je trouve difficile le lien de la prise en charge de pathologies différentes. Voilà. Donc, voilà, c'est à travailler.
Merci.
Oui, je voulais poser une question à Geneviève. Pour l'embêter un petit peu. Non, mais j'étais surpris par certains chiffres et j'aimerais avoir un complément d'information. C'est une population âgée, majoritairement âgée, avec une grande ancienneté dans le diabète ou...
L'ancienneté, alors oui, j'ai pas pris ce chiffre-là. On est autour, mais c'est des types 2, hein.
Ah, c'est des types 2.
C'est des types 2, hein.
D'accord.
Voilà, donc je pense que ta question
répond,
est.
Oui.
Voilà, en partie à ta question. Mais en moyenne, tu as une quinzaine d'années d'ancienneté diabète.
Hein,
mais c'est du type 2.
D'accord, mais alors justement, en corrélation avec l'âge, j'étais surpris de la bonne HbA1c aussi. Est-ce qu'elle est.
Alors.
Au départ, elle était de combien? Vous avez mesuré avant?
Alors, ouais. Au départ, là, c'est l'hémoglobine glycée de départ.
Hein. De départ.
Voilà. Ah oui. Et c'est pour ça que je pense, si tu veux, que c'est intéressant, parce que c'est complémentaire. Parce que c'est des patients, justement, on a à la fois des hyperglycémiques à jeun et des diabétiques, des diabètes de type 2 avec soit un régime seul, soit des comprimés, soit de l'insuline. Mais si tu veux, qui ne sont pas compliqués, qui sont plutôt en début, en tout cas, avec une pathologie non compliquée, tu vois, non évolutive, je dirais.
Mais ça, c'est pas un choix, je veux dire.
Ah non, c'est pas
d'accord,
un choix.
Oui, d'accord.
Non, non. Mais je pense que les autres... Non, parce que si tu veux, au départ, on a dit tout patient diabétique, hein, quel que soit leur traitement de type 2, quel que soit leur traitement, quelles que soient leurs complications, quel que soit leur âge. Hein, on n'a aucune... et on a aussi des patients sous insuline, hein. Mais si tu veux, les autres patients, en fait, je pense que les patients plus compliqués avec sont pris en charge dans des structures.
D'accord.
Alors, est-ce qu'ils sont éduqués? Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ce ne sont pas ceux qui viennent. Parce qu'ils sont souvent vus par des diabétologues. Tu vois?
C'est aussi une question pour Geneviève. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait aucun médecin généraliste en fait dans votre groupe et à la fin ça finit par on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt ou une réflexion qui est de les amener dans votre groupe de travail et travailler l'éducation thérapeutique avec eux, ou est-ce que c'est encore j'ai entendu le mot territoire, est-ce que c'est un problème de pouvoir et de partage de territoire?
Alors pas du tout, hein. Je pense surtout que effectivement notre souhait, hein, parce que le problème ça va être bien sûr la pérennisation, hein, puisque là bon, en unité c'est venu un petit peu d'une volonté de certains. Alors après moi mon questionnement c'est est-ce qu'on a bien commencé, voilà, est-ce qu'il ne fallait pas au départ travailler justement avec la demande des médecins généralistes, mais il n'y avait pas de demande. Donc je dirais il va falloir qu'on crée l'envie, qu'on crée la motivation. Pour l'instant au début il y a une grande méconnaissance de l'éducation thérapeutique. Hein. Alors, parmi les médecins généralistes, je pense qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui ont une espèce de résistance de principe. Parce que, mais nous, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont très déstabilisés par des patients éduqués. Hein. Je vous disais, nous, les malades nous disent, j'ai vu mon médecin généraliste. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait mon fond d'œil depuis 3 ans? Et là-dessus, ils me disent, mais vous en savez plus que moi. Alors, il y en a qui acceptent bien ça, et d'autres qui sont, c'est une problématique. Hein. Donc, on avait essayé au départ aussi de les former de la même manière que les patients, c'est-à-dire qu'on a fait des journées de formation interdisciplinaire. En leur donnant les mêmes remis patients qu'on avait adaptés aux soignants, en disant bon bah ça va les amener à comprendre un petit peu notre la philosophie de l'éducation thérapeutique. Mais on se heurte à cette difficulté. Il y a encore une résistance je pense qu'il n'y a pas d'a priori contre, hein, mais il faut qu'ils envoient les bénéfices. Je pense que c'est encore un peu tôt, hein, mais ce n'est pas du tout une volonté de notre part, bien sûr.
Bonjour, Jean-Charles Véreille. Une question pour Mme Vaillant, qui va dans la suite de la question précédente. Vous avez dit dans votre intervention, c'est une question pratique, que sur la construction du compte-rendu éducatif aux médecins généralistes, vous n'aviez pas impliqué les patients, et j'irai plus loin, les médecins généralistes, et que c'était d'un ordre, que vous n'étiez pas équipé pour ça. Et pour avoir, donc je voudrais avoir une explication là-dessus, pour avoir rencontré la même situation dans d'autres réseaux, que le même, des réseaux éducatifs, notamment dans l'asthme, et du coup avec des médecins généralistes qui disaient... et effectivement c'est gênant d'avoir des patients qui en savent plus que moi, mais c'est aussi gênant d'avoir des patients qui me demandent des choses alors que c'est moi qui devais leur proposer sur l'adaptation du traitement, sur etc. Donc, et moi je me pose la question sur l'implication du patient et du destinataire, donc le médecin généraliste, qui ne pourrait pas être une solution pour limiter cette réaction et donc augmenter l'adhésion.
Alors c'est clair que ça serait l'idéal, hein. Mais on se rend compte tout de même que même quand on fait des formations identiques, on a l'impression de délivrer le même message. Je vais vous donner un petit exemple. On a fait des formations classiques, hein, sur le pied, comment on se coupe les ongles de pied, est-ce qu'on utilise des ciseaux à bout rond, des ciseaux à bout pointu, un coupe-ongle. Très bien, on fait passer l'information, on donne aux patients des informations. Le patient dit au médecin généraliste, mais dans l'unité, on m'a dit d'utiliser ça. Donc, petit mail du médecin généraliste, je ne comprends pas, j'avais cru comprendre qu'il fallait plutôt utiliser ça. Et nous, on avait les mêmes techniques, on a donné les mêmes documents. Voyez ? Donc, le problème, c'est que l'information aussi que va donner le patient, il est travaillé par le patient. Donc, on se retrouve, et c'est là, effectivement, alors c'était très bien, parce qu'on s'est mis au clair avec ce médecin, mais au départ, il ne l'a pas bien pris. Il dit, oui, vous nous avez dit qu'il fallait qu'on ait le même message, et puis finalement, je m'aperçois qu'on ne dit pas la même chose. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir quel est... Voilà, parce que c'est, je dirais, la navette du message, c'est le patient. Et qui va, effectivement... Voilà. Alors après, est-ce que c'est dangereux pour lui? Comment on va faire? Parce qu'on a personne n'a de vérité, hein. On est bien d'accord.
Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de la... Des cas particuliers, dans les éléments à faire rentrer dans le compte-rendu éducatif, est-ce qu'il y a des éléments types qui pourraient être travaillés avec un groupe de médecins généralistes pour dire, voilà, ce que nous, on attendrait d'un compte-rendu éducatif.
Tout à fait, c'est une bonne idée. Notre difficulté actuellement, c'est de trouver du temps pour les médecins généralistes. Quand on propose des formations, on a beaucoup de professionnels non-médecins et peu de médecins. Mais ils sont 50 sur la région et impliqués dans des tas de réseaux de soins. Et ils sont en grande difficulté. Ils sont en grande souffrance, hein, je pense.
Oui, Patrick Levaillant, dont je suis coordinateur du réseau Asthme. Je voulais intervenir par rapport aux généralistes aussi, puisque nous, on avait commencé, pour te rassurer un peu de tout ça, et qu'on n'est pas tous dans la même galère. C'est que nous, on a essayé d'abord d'impliquer les médecins généralistes dedans, et on est en train de faire machine arrière. Parce que finalement, c'est vrai qu'on a introduit un petit peu les médecins généralistes font... Enfin, moi je suis généraliste moi-même, hein, donc font toujours de l'éducation tout le temps, c'est bien connu. Et donc là, on intervenait un petit peu sur leur domaine de compétences. Donc maintenant, j'ai appris à être très patient et à passer justement par les patients qui, eux, donnent le message petit à petit aux médecins et ça rentre dans la tête en disant que finalement... Ils sont chacun leurs compétences et que finalement ils s'aperçoivent que les patients sont mieux pris en charge et qu'ils viennent aux consultations dans les délais normaux. Ils ont moins de consultations en urgence et ils s'en aperçoivent. Et petit à petit, ils arrivent à demander l'aide du réseau Asthme pour justement la prise en charge de leurs patients. Donc je crois qu'il faut être patient justement.
Merci de cet encouragement.
Est-ce qu'un moyen ne serait pas de faire une enquête de satisfaction sur ce que apporte votre réseau aux médecins? Nous, on a fait ça, nous, je suis rhumatologue, on avait fait ça, on avait fait une enquête de satisfaction auprès des médecins rhumatologues et des médecins généralistes sur est-ce que c'était une aide à la prise en charge, est-ce que ils étaient, qu'est-ce qu'ils préféraient dans ce qu'on apportait aux patients. Et c'était un espèce de lien qui n'était pas non plus directif, puisqu'on leur demandait leur avis de façon indirecte. Donc ça serait possibilité peut-être.
Tout à fait. Alors normalement, ça doit être fait justement sur l'évaluation des trois réseaux hein, par l'ORS de Bourgogne. C'est prévu qu'il y ait une enquête auprès des médecins.
Une double question, enfin pour les deux présentations. Bon, dans quelle mesure on se centre sur le patient. Donc juste comme ça, c'est vrai quand on voit que les quatre séances sont formalisées. Alors on voit bien l'intérêt pour l'évaluation, mais on comprend bien l'écart que ça va donner. Dans quelle mesure on peut, ils sont réintroduits quand même dans leurs besoins, leurs attentes et tout ça. Est-ce que c'est un rêve de penser qu'on pourrait avoir quatre séances, c'est le format, mais la première séance, c'est de savoir ce qu'on va faire pendant les quatre séances. Et puis d'une certaine manière aussi pour cette association d'ados, enfin d'enfants là, à quel moment ils interviennent. Par exemple, les ados, ils choisissent le lieu où ils vont, etc. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire un peu toutes ces choses qui nous ramènent au fait que le patient a son mot à dire, quoi.
Alors, nous, par rapport aux enfants, en fin de journée ou de séjour, effectivement, on fait toujours une évaluation avec eux sur les points forts, les points faibles et ceux qu'ils souhaiteraient améliorer. En sachant qu'il y a une sorte de continuum dans le suivi, hein, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des patients nouveaux qui arrivent et qui vont intégrer les groupes, mais comme l'enfant grandit, il va participer à des journées différentes ou des séjours différents au fil des ans. Et donc, les suggestions qui sont faites sur une journée ou sur un séjour vont être reprises, dans la mesure où on le peut, sur une journée ou un séjour suivant. Voilà. Après, par rapport au programme, nous organisons avec des compétences générales, globales, que nous avons définies en fonction de l'âge. Quand on prépare une journée, on regarde quels sont les enfants qui vont venir. Donc, ils reçoivent tous un courrier un mois et demi avant et on leur demande de s'inscrire. Donc, nous prenons la liste des enfants qui sont inscrits. Nous regardons les derniers comptes rendus de consultation, les évaluations, etc. pour savoir où est-ce qu'ils en sont, quels sont les points à reprendre. Et à partir de la synthèse, alors, qui va peut-être pas forcément intéresser tous les enfants, mais qui va intéresser la majorité des enfants de ce groupe, on va les calquer sur les objectifs que l'on a fixés avec les outils qu'on veut utiliser.
Tu veux que je réponde? Bon, alors c'est vrai qu'on peut tout à fait, bon, dans la première séance, passer un temps à évaluer un peu les demandes, les objectifs, etc. Moi, ça me paraît trop tôt. Enfin, ça me paraît trop tôt, c'est-à-dire que je pense que, si tu veux, ils ont tellement peu, je dirais, d'appétit ou de connaissances, tu vois, que après, ça vient après. Et d'ailleurs, au début, on était parti sur trois séances, puis après, on s'est dit, mais non, parce qu'ils ont encore des tas de choses à apprendre, à demander, etc. Donc, je pense que c'est pas forcément au début. Il y a peut-être un moment, le bon moment à trouver pour plus personnaliser, tu vois. Enfin, il me semble.
Une autre question dans la salle ?
Moi, c'est une question aussi. J'ai cru comprendre que dans votre réseau, vous avez pu gagner en fait la sensibilité des médecins scolaires, enfin du monde éducatif et du monde enseignant. J'aimerais connaître votre recette, car nous avons en fait nous la prétention aussi d'avoir monté un petit peu le porte-secours dans les établissements scolaires, et les premiers résultats préliminaires d'une étude et d'une thèse sont assez désastreux dans ce domaine. Donc dans ma région qui est le Nord, j'ai beaucoup de mal à sensibiliser le monde éducatif et enseignant sur l'éducation thérapeutique, encore plus sur les enfants en âge scolaire. Voilà.
Alors, bon, on n'a pas de recette particulière. Simplement, on est parti de l'hypothèse qu'il fallait sensibiliser une école et un enseignant à partir d'un enfant qui était scolarisé dans cette école-là. Autrement dit, on n'a pas fait d'information de tous les enseignants par rapport à la problématique du diabète. On a rencontré les médecins scolaires, par contre, il y a eu des formations au niveau des médecins scolaires. Et ensuite, c'est ponctuellement, quand un enfant est scolarisé dans une école, à la demande des parents et après à la demande du directeur de l'école, que nous intervenons. Donc, on peut sensibiliser l'équipe enseignante, le centre de loisirs, les cantines, etc., les mairies, par le biais d'un cas bien précis. Et petit à petit, en fait, ça fait un petit peu tache d'huile, puisque le médecin scolaire va être présent sur plusieurs établissements. Il va dire, ah mais tiens, dans cette école-là, il y avait cet enfant, il y a l'équipe de diabétologie qui est venue, on a pu mettre en place des choses, etc. Alors la difficulté après, c'est effectivement de ne pas se substituer au médecin scolaire. Ce n'est pas notre but, hein. Mais c'est de travailler en partenariat et d'apporter un petit peu l'information qui va être pertinente, qui va être adaptée par rapport à l'enfant avec sa problématique, pour médier, je dirais, un petit peu aussi la relation entre les parents et les enseignants. Mais après, ça fait un petit peu de tache d'huile au niveau des autres écoles.
Et ils participent avec vous à un moment donné? Il y a une implication directe? Ils participent à des réunions de synthèse ou des choses comme ça? Comment ça se passe? Alors, est-ce qu'il y a un retour de leur part?
Alors, il n'y a pas forcément de retour, mais par contre, on peut être invité effectivement sur des équipes pédagogiques, hein, quand il y a des difficultés qui apparaissent. Il arrive régulièrement que l'on nous interpelle pour venir en tant que médecin référent par rapport à la pathologie, pour peut-être une problématique qui est beaucoup plus large. Voilà. Par contre, ils reçoivent toujours les comptes rendus, que ce soit des consultations ou que ce soit des journées ou des séjours quand ils viennent. Parce que là, par contre, ils sont assez demandeurs de savoir où en est l'enfant par rapport à ses apprentissages, par rapport à son comportement, par rapport à ses représentations, etc.
Une dernière question dans la salle? Non? Alors, je vais la poser juste très rapidement en un mot. Ce que vous avez fait, on voit que ça fait appel à différentes contingences, il y a des aspects financiers, de communication, de formalisation. En un mot, quel a été pour vous le principal obstacle, la principale difficulté que vous avez dû surmonter pour arriver à ces projets? Un mot, puis ensuite Pierre-Yves nous parlera d'un projet.
Un mot Je dirais que le principal obstacle a été peut-être une sorte de peur et de résistance. De nous par rapport à la nouveauté. Voilà. C'est-à-dire oser se lancer là-dedans, rêver, écrire ce que l'on pouvait avoir pour rêver, sans tenir compte à la limite de la source de financement, et une fois qu'on avait rêvé, dire bon, maintenant on va aller chercher le financement. Donc c'est un petit peu la démarche inverse de ce que l'on a l'habitude de faire.
Moi, je crois que ça se rapproche un peu de ça. Je dirais notre manque de compétences, justement, dans la connaissance de faire des projets, de l'organisation, d'être de la précision, des chiffres, etc. Moi, ça a été vraiment un domaine que j'ai complètement découvert.
En quoi, c'est un projet, hein, ça demande vraiment une expertise. Pierre-Yves, tu avais quelque chose à nous faire communiquer? Donc, on a fini cette session. Pierre-Yves, avant qu'on aille déjeuner, m'a demandé de vous faire un petit exposé, une petite présentation rapide. Voilà, je remercie Geneviève et Claire.
C'est juste pour vous faire une annonce. Avec Geneviève Vaillant, nous avons constaté lors de nos formations dans multiples réseaux que chaque réseau crée des outils, des supports, des moyens d'information et des outils éducatifs qu'ils ont du mal à faire partager. Alors nous avons imaginé d'organiser le premier salon des outils éducatifs qui se passera à Saulieu le 23 janvier. L'annonce, c'est la première annonce officielle réellement. L'annonce a déjà été faite à tous les réseaux de diabète et il y en a plus d'une trentaine qui sont inscrits pour l'instant. Si ça vous intéresse de participer à ce salon, nous vous proposons de nous donner votre adresse mail, tout se fait par mail, votre adresse mail, et puis soit à Geneviève Vaillant, soit à Marie-Thérèse Malaval, soit à moi-même, et nous vous enverrons les modalités d'inscription. Le principe de ce salon, c'est que chaque représentant de réseau ou d'organisation qui fait de l'éducation thérapeutique amène ses propres productions pour les faire partager aux autres, et en même temps peut venir avec son panier pour faire son marché, c'est-à-dire pour prendre les idées des des autres et de voir un peu ce qui a été fait. C'est une journée qui sera basée uniquement sur des échanges informels pendant toute la journée. Il n'y aura que deux topos qui seront faits par soit un concepteur graphiste qui est Jean-Philippe Piétans, soit par Rémi Gagnère. Ce seront deux topos d'éclairage qui permettront, je dirais, d'avoir un avis d'expert sur à la fois la conception graphiste et puis, d'autre part, l'utilité pédagogique ou l'innovation pédagogique de l'ensemble des outils qui sont proposés. Ce salon est gratuit dans la mesure où nous pouvons disposer à ce lieu d'une salle de 600 mètres carrés gratuitement qui nous permettra d'avoir tout ce qu'il faut. Par contre, le voyage est à la charge des personnes qui viendront et voyager le 23 janvier pour arriver à ce lieu, il faudra être motivé. La deuxième annonce que je voulais vous faire, juste, c'est que vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais au cours des interventions, tous les orateurs sont priés de dire un mot. Voilà. Et vous le saurez en fin d'après-midi. C'était juste pour éveiller votre sagacité.